Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez aussi écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de François Lauzé. Bonjour.
Bonjour.
François Lauzé, vous êtes actuellement au sein de Trajet Spectacle, même depuis plusieurs années même, et vous êtes aussi partie prenante de cette édition qui devient, comment dire, emblématique de ce livre audio qui parle du patrimoine aux sensibles.
Oui, c'est la 4e édition. Et pour la première année, je suis responsable de l'atelier d'écriture, de la dimension écriture de ce livre audio. Ellie est responsable de l'ambiance sonore, de la composition sonore du livre. Marie Pouillaud est toujours responsable des illustrations. Et on va essayer cette année de travailler sur une édition nouvelle et cohérente, à nouveau, quoi, sur ce patrimoine urbain de Die, les perspectives et le paysage urbain de Die.
Vous avez exploré quelques pistes entre vous, justement, pour amener ce nouvel aspect d'édition.
Alors, ce qui se passe, c'est que l'aspect de l'édition, il y a une thématique de base qui nous est donnée, en partenariat avec le conservateur du musée de Die, et puis Marie Pouillaud. Il y a une sorte de corpus de lieux qui se constituent, de lieux urbains, donc, qui se constituent. Et puis après, autour de la thématique, c'est bien entendu la créativité de chacun qui importe, la créativité à la fois plastique dans les ateliers de Marie et la créativité littéraire dans les ateliers que je mène actuellement.
Comment en êtes-vous justement venu à ce projet, François Lauzé ?
Pour moi... Ça fait plusieurs années, donc pas forcément pour Trajet Spectacle, que j'anime des ateliers d'écriture, écrivant beaucoup moi-même et réfléchissant beaucoup à la manière dont on se raconte les histoires les uns les autres, quoi. Et puis, ça me passionne depuis l'origine. Ce qui me passionne, c'est effectivement la créativité qui est contenue en chacun. Et donc, comment on émancipe le langage de chacun pour en faire quelque chose de poétique, quoi. Là-dessus, la réflexion patrimoniale, c'est-à-dire la réflexion sur le passage de mémoire, c'est toujours aussi une réflexion qui est passionnante au moment même où on cherche à produire du nouveau.
D'ailleurs, la transmission, c'est un peu votre profession. Vous êtes plutôt dans l'enseignement, dans la formation, alors, de savoir-faire.
Oui, j'ai plusieurs... je suis un peu un homme sans qualité, c'est-à-dire quelqu'un qui a plusieurs casquettes. De temps en temps, je suis professeur, effectivement, de temps en temps formateur, de temps en temps musicien ou producteur, de temps en temps auteur ou scénariste. Donc, je navigue entre ces différentes... ces différentes identités, d'une certaine façon, puisque il faut bien se conformer au casque qu'on nous assigne.
Donc, ce sont ces capacités qui vous permettent justement d'agir pour cette édition, d'un savoir-faire. Je reviens dessus. Donc, pour réaliser cet ouvrage, vous êtes un peu, en quelque sorte, un metteur en scène dans cette proposition ?
Alors, pas exactement, là, puisque je m'inscris dans un travail collectif avec Marie, avec Ellie, avec Françoise Cloarec, qui supervise aussi l'édition, au moment de l'édition. Le livre va sortir donc en septembre. Je ne sais pas encore quelle forme il aura exactement. Je pense que nul d'entre nous ne le sait non plus, mais c'est aussi ce qui est passionnant dans l'élaboration collective d'une œuvre, puisque ça va être une œuvre, avec des réponses entre le texte et les images produites, quoi.
Comme vous le disiez tout à l'heure, vous êtes en en temps d'écriture encore, avec des ateliers d'écriture. Donc, oui. Avec une thématique, on peut en connaître un petit peu la teneur ?
Alors, les thématiques s'articulent beaucoup autour des travaux préalables qui ont été faits avec Marie en art plastique. Ça peut être les perspectives, ça peut être les traces, les enseignes. Ces thématiques, moi, très souvent, je les prends soit au pied de la lettre, soit au figuré, puisqu'en fait, les perspectives, pour moi, c'est des perspectives qui peuvent être non plus seulement spatiales, mais temporelles, c'est-à-dire comment on s'inscrit, sur quel arrière-plan ou arrière-fond sociologique ou historique ou philosophique on inscrit son discours et son écriture. Donc, très souvent, je pars de contraintes ou je pars de technique d'écriture, de nuages de mots, de pensée du rythme, de pensée musicale, de pensée thématique aussi, effectivement. Qu'est-ce qu'une trace ? Comment on peut... qu'est-ce que ça veut dire, en fait, que cette trace qui est à la fois une présence et en fait le signe d'une absence, etc. Et à partir de ces réflexions-là, je lance aussi la réflexion autour de ce que peut être finalement, au fond, la littérature, c'est-à-dire ce balancement entre la mélancolie qu'on ressent tous du fait de passer et que la littérature cherche à cataloguer d'une certaine façon, pour essayer, comme une sorte de pense-bête pour essayer de ne pas oublier. Et puis l'utopie, puisque c'est la deuxième, pour moi, la deuxième polarité de la littérature et de l'écriture, de l'exercice d'écriture. L'utopie au sens où on fait un catalogue de ce qui aurait pu être et éventuellement de ce qui pourrait être.
Donc c'est un travail d'équipe auquel vous participez. Je suppose que le musée aussi amène ses connaissances, des données à utiliser aussi.
Oui, bien sûr. Les connaissances scientifiques de Jacques Planchon nous permettent de nous diriger d'un point de vue historique dans tel ou tel quartier de la ville et de savoir à quoi correspondent les traces qui nous sont parvenues, qui sont restées. Et puis, à partir de là, c'est aussi un travail de rêverie, de reconstitution de ce qui a été, sur lequel je lance notamment les participants au moment de l'écriture.
J'ai entendu une phrase un temps qui disait qu'un historien manque d'imagination, il restait aux strictes réalités ou aux données strictes. C'est aussi cette part-là qui est à exploiter pour vous ?
Alors, d'un point de vue historique, oui, il y a plusieurs... c'est très intéressant, d'ailleurs, hein, puisque ça remonte quasiment à Aristote et à Thucydide. Aristote qui dit que, finalement, il n'y a aucune logique dans le travail de l'historien. Et donc, ce n'est pas un travail de scientifique. Aucune logique, tout simplement, parce qu'il compile les aléas, les accidents des choses qui sont advenues. Alors que le poète, au contraire, pour Aristote, c'est le logicien, c'est celui qui fait que chaque geste a ses conséquences. Et comme chaque geste a ses conséquences, il y a la possibilité, effectivement, de découvrir un sens à nos vies. Et souvent, c'est par la fiction, donc, dit Aristote, que c'est par la fiction qu'on réussit à trouver une vérité aux choses, alors que l'historien n'a pas accès à cette vérité. C'est un peu paradoxal. Et je vais pas me lancer de toute façon dans ce débat-là, mais il y a de toute façon dans le travail de reconstitution historique une narration. Et chaque historien le sait bien, ça va de Thucydide à Carlo Ginzburg, etc. Mais chaque historien le sait bien, il sait que en fait tout dépend de la façon dont on raconte l'histoire. Et c'est à la fois... Bon, il y a des dimensions politiques dans cette narration-là, il y a des dimensions poétiques également. Et il faut savoir reconstituer l'histoire de façon la plus véridique possible, sans la travestir.
Des histoires donc émanant de ces ateliers d'écriture, il y aura une histoire ou ce sera une suite d'histoires ?
Alors c'est plus exactement un kaléidoscope d'écriture, c'est-à-dire il y a effectivement des textes qui vont avoir un caractère très narratif, mais je fais travailler aussi d'autres genres, je fais travailler aussi cette sorte de réexistence de sensations. Donc là, on est sur le plan de la sensation. Il n'y a pas forcément de logique linéaire, c'est-à-dire de chronologie, de avant-après. Je cherche à faire en sorte que l'imaginaire de celui qui écrit réussisse à reconstituer un moment, un instant des choses, une constellation de sensations, de façon à ce que... Et là, on n'est plus dans la narration, on est plus dans une forme d'écriture poétique, toujours en lien à l'image qui leur est soumise ou au lieu auquel on pense à l'intérieur de la ville de Die.
Justement, pour la poésie, quelle est sa place aujourd'hui dans notre quotidien ?
Malheureusement, ça a été pendant des siècles, je suppose, mais c'est même pas « je suppose ». Pendant des siècles, ça a été un plat de résistance, la poésie. C'est-à-dire, dans les deux sens du terme, ça a été un plat d'importance, celui qui nourrissait l'esprit, principalement l'esprit, avec une forme de spiritualité laïque également. Enfin, la poésie a été vraiment l'art prédominant depuis la deuxième moitié du XXe siècle. C'est devenu un condiment. On parle de spectacle poétique. C'est devenu un adjectif. Et vraisemblablement, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est cet arrière-fond littéraire, ou en tout cas cet arrière-fond poétique, dans la vie de tous les jours. Cette disparition est un des symptômes du malheur d'aujourd'hui.
Cette notion de la poésie, elle peut se retrouver assez rapidement en chacun de nous, d'où ces ateliers d'écriture, ou alors il y a quelques difficultés à faire ressurgir ça.
La difficulté principale, c'est le langage comme dénominateur commun. C'est-à-dire, la difficulté principale, c'est aussi le médialecte, comme on dit, c'est-à-dire le dialecte des médias qui souvent sont faits de formules préfabriquées, de mots qui s'accolent très bien les uns aux autres ou qui euphémisent une partie de la réalité ou qui, au contraire, la travestissent. Le travail sur le langage qui a été opéré ces 50 dernières années, c'est un travail qu'il faut essayer de redresser au travers notamment de ces ateliers d'écriture ou au travers d'écoutes d'auteurs anciens qui nous permettent de rétablir d'une certaine façon un juste rapport au langage, quoi.
Cette situation de la poésie, en quelque sorte, d'où vient-elle ? Enfin, ce n'est pas une extinction, mais une mise de côté, je dirais plutôt.
Oui, parce que il semblerait qu'on n'en voit pas une utilité immédiate. Et depuis quelque temps, effectivement... la pression était mise sur l'efficacité, sur la possibilité efficace du langage, quoi, ou en tout cas une sorte d'employabilité pour dire des mots qui ne veulent rien dire. Hein. On parle beaucoup avec une sorte de rapport au réel sans questionner le réel. En faisant quelque chose qui va de soi, alors que le réel ne va jamais de soi. C'est quelque chose qui s'interroge, et qui s'interroge notamment aussi avec cette réflexion poétique.
Les objets qui seront proposés dans cet ouvrage, d'ailleurs je ne connais pas si ce sont les objets, si ce sont des lieux, je ne connais pas la teneur de ce qui sera retenu pour illustrer ce livre, mais c'est toute chose à son époque, son utilité. Est-ce que de nos jours, on y prend autant d'attention qu'à son époque contemporaine ?
Alors, en ce qui concerne les objets, ce qu'il y a d'intéressant, c'est comment un objet traverse le temps. Quand il perd une partie de sa fonction, qu'il devient objet de musée, par exemple, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la métamorphose dans l'appréhension qu'on peut en avoir. Une métamorphose interne à l'objet, sans doute, puisqu'il est séparé de sa fonction. Et comme il est séparé de sa fonction, on redécouvre pour une part quelques-unes de ses lignes, de sa forme, etc., de son design, même si à l'époque on ne parlait pas de design, bien entendu. Après, l'appréhension qu'on peut en avoir aujourd'hui, elle est double, elle est toujours double, elle est toujours dans la rêverie de ce qu'il a pu être, cet objet, et dans ce qu'il est devenu, comme un reste, comme un reliquat, comme une trace devant nous, une trace de vie passée.
Cet ouvrage a besoin de financement, je suppose, et les collectivités ou certains organismes permettent de le financer actuellement ?
Alors, pendant quelques années, effectivement, la DRAC s'investissait pas mal sur ce livre. J'ai l'impression que c'est un peu à l'image de ce qui se passe sur la politique culturelle globalement. Il y a une sorte de retrait, de restriction, ou en tout cas de contraction des possibilités budgétaires qui nous sont allouées, quoi. Donc on se débrouille avec, sans doute cette année, mais je ne suis pas responsable de la production du livre, sans doute cette année avec un peu moins d'argent, un peu moins de participants également. Mais il y a encore effectivement des aides de collectivités territoriales, un peu de DRAC et voilà.
C'est dans un souci de préservation de la poésie qu'agissent ces organismes, justement, ou alors c'est dans un domaine plutôt global de la culture ?
Ah, c'est le domaine global de la culture. Après, ce sont les acteurs, comme Trajet Spectacle ou moi-même, nous servons des outils qui nous sont laissés pour donner la dimension qu'on veut lui donner. Donc, ça fait partie du métier des délégations régionales à l'action au ministère de la Culture que d'aider des formes culturelles qui ne sont pas commercial au sens strict du terme, c'est-à-dire qu'ils ne rentrent pas dans le champ de la compétitivité effrénée. Voilà.
Un quatrième livre donc prévu. Pour vous, vous verriez d'autres ouvrages à la suite ? Ou alors est-ce que vous pensez peut-être amener un autre aspect de ce travail ?
Alors, pour ma part, vraisemblablement, on va essayer de pérenniser cette action. Parce qu'il y a une créativité collective qui est très intéressante à essayer de mettre en place. Pour ma part, alors là, pas avec Trajet, mais avec un groupement d'artistes pour lequel je sers un peu de directeur artistique et de directeur de collection, j'ai lancé des podcasts et des livres audio, mais autour de textes classiques, Sénèque ou La Boétie, de façon à faire entendre de façon différente des textes qui me semblent absolument jalons dans la culture et dans l'émancipation de chacun.
Le spectacle étant votre domaine également, puisque vous êtes scénariste, vous avez produit des courts-métrages également.
Oui.
Et composé des chansons.
Oui. C'est cette culture populaire qui nous manque, cette poésie populaire qui nous manque, me semble-t-il. Mais bon, la chanson... Depuis quelques années, je m'en suis un peu séparé parce que l'industrie de la chanson ne me plaît pas beaucoup, pour tout vous dire.
Et quand vous dites auteur de chansons, c'est-à-dire que vous avez écrit pour d'autres interprètes ?
J'ai écrit pour d'autres interprètes et de façon assez étrange, ou en tout cas c'est les aléas et en tout cas les hasards heureux de la vie, beaucoup pour un interprète japonais. Qui fait carrière de la chanson française au Japon et qui a vécu suffisamment de temps en France pour qu'il devienne mon meilleur ami.
Ce goût pour le spectacle, de créer, c'est primordial pour vous de pouvoir exprimer ce que vous avez en vous ?
Alors, c'est pas la question de ce que j'ai en moi, c'est la question de ce qu'il y a de commun en moi, c'est-à-dire de ce qu'il y a de commun en nous. C'est la question d'exprimer quelque chose pour lequel je ne peux être qu'un canal, d'une certaine façon. Alors ça peut être un canal de transmission, comme quand je fais récitant pour Sénèque ou La Boétie, ou un canal de sensation, Il y a, dans l'écriture ou dans le travail de création d'un spectacle, il y a de toute façon une sorte d'acte chamanique, d'une certaine façon. De fait, l'apparition de l'écriture correspond à une apparition de la parole du lointain, qu'elle soit dans une culture orale, qu'elle soit cette parole lointaine par la distance, mais lointaine par le passé. C'est-à-dire que l'écriture opère quand même cette chose absolument admirable, qu'on puisse entendre la parole des morts.
Vous parlez de parole. Pour ce livre audio qui va paraître, est-ce qu'il y a aussi une place pour le dialogue ?
Alors, je n'ai pas vu pour l'instant dans les productions écrites, si, à part peut-être un ou deux petits textes, de dialogue écrit par les stagiaires, enfin par les participants au livre audio. Mais il n'en reste pas moins qu'effectivement, c'est une forme littéraire très intéressante, le dialogue. C'est même la forme philosophique de base, puisque les philosophes de base, c'était des questionneurs et des répondeurs par des questions, quoi. C'est pas... Le dialogue fait partie de la démarche d'une recherche de vérité. C'est-à-dire pas de donneur de réponse, quoi.
Vous citez souvent Sénèque, vous l'avez cité plusieurs fois, La Boétie. Ce sont des auteurs incontournables pour vous ?
Alors, je les cite tout simplement parce que c'est aussi un peu mon actualité et j'ai ça en tête. C'est la sortie du podcast. Tous les jeudis, j'ai un podcast sur un ouvrage de Sénèque qui s'appelle « De la vie brève » ou « À propos de la brièveté de la vie ». Et puis, ça suivra ensuite, effectivement... La Boétie et le discours de la servitude volontaire, ce sont en tout cas les deux premiers livres d'une collection. Et si j'ai commencé par ces deux livres, c'est sans doute pas un hasard, c'est sans doute aussi parce que je considère ces textes comme essentiels à l'émancipation individuelle pour échapper aux ensorcellements sociaux, à la commune hiérarchie, aux docilités d'usage, aussi bien la sagesse de Sénèque, avec les réserves qu'on peut avoir sur l'homme, qui était le précepteur de Néron, qui était multimillionnaire et qui faisait assaut de sagesse sobre, dit-il. Mais en tout cas, chez Sénèque, malgré ses réserves, il y a aussi cette volonté. Comme chez La Boétie, c'est quand même phénoménal. C'est un texte qu'il écrit à 18 ans, 18, 19 ans, le discours de la servitude volontaire. C'est un texte qui est éternellement jeune. C'est un texte qu'il faut absolument faire lire aujourd'hui, à l'heure où il y a tellement de tentations à l'autoritarisme et de tentation à la docilité à cet autoritarisme, que faire entendre un texte écrit en 1549 et qui décrive encore des comportements de notre époque, je trouve ça essentiel. De la même façon, pour la sagesse de Sénèque, c'est un texte qui a été écrit il y a 2000 ans maintenant, ou quasiment, et qui nous parle de la vie et de la mort. De la retraite à 60 ans aussi. On sait maintenant que pour Sénèque, la retraite devrait être à 60 ans. C'est assez rigolo d'entendre par-delà les siècles, les différences culturelles, les différences, les étrangetés culturelles, puisqu'il y a quand même des étrangetés dans la vie sociale romaine, des étrangetés pour nous, bien entendu. D'entendre des choses qui nous sont particulièrement communes.
L'essentiel, c'est aussi une idée qui vous a amené à vivre à Di ou dans le Diwa.
Alors je suis dans le Diwa avec ma compagne depuis 5-6 ans maintenant. Et c'est effectivement une volonté de retour à un rythme plus réflexif, ou en tout cas non pas plus lent, mais qui prennent le temps de réfléchir aux choses et qui prennent le temps de se souvenir qu'entre savoir et saveur, il y a un rapport étymologique de base. C'est-à-dire il y a une véritable saveur au savoir, et à chaque fois qu'on oublie cette saveur, qu'on en fait quelque chose de marchand peut-être, ou en tout cas qu'on en fait quelque chose, qu'on en fait une profession aussi, hein, une profession de professeur, il y a quelque chose qui manque à la saveur du savoir.
À l'heure actuelle, pour l'élaboration de ce futur livre, des personnes pourraient être intéressées pour y participer encore, ou alors c'est une prochaine session à prévoir ?
Alors là, je pense que ça va être une prochaine session. On a accueilli jusqu'à assez récemment de nouveaux écrivains, de nouveaux dessinateurs, ou en tout cas plasticiens. Mais là, le livre est trop élaboré. Il nous reste quoi, 3-4 ateliers et d'art plastique et d'écriture avant de se lancer dans l'enregistrement et dans la conception même du livre audio, que c'est pour l'année prochaine maintenant.
On peut aussi découvrir votre travail, François Lauzé, sur le réseau Internet. Vous parliez tout à l'heure d'un blog, c'est ça ?
Alors, il y a blog, il y a podcast sur l'ensemble des plateformes de streaming, quoi qu'on pense du streaming pour un musicien. Sur Apple Music aussi, enfin, toutes les plateformes de podcast distribuent ces deux livres audio qui sont le Sénèque et le Labo ici. Et puis effectivement, je tiens un blog et autour de ces différents travaux qui peuvent être plus variés que le Sénèque et le Labo ici, qui semblent obsessionnels aujourd'hui.
Il suffit de taper votre nom, François Lauzé.
Non, c'est souvent François Lost, L-O-Z-T. François Lauzé, oui. C'est... En tout cas, le blog, c'est lost.fr. Et en ce qui concerne le Sénèque et la Boétie pour le podcast, c'est sur un autre site qui permet justement de propulser le podcast, qui s'appelle ARTSPO, artspo-livresaudio.store. Et là-dessus, vous avez les démarches qui, et les liens qui vous sont possibles pour vous abonner au podcast du jeudi.
Eh bien, François Lauzé, je vous remercie de nous avoir donné un peu de votre temps pour parler un peu de l'actualité de Trajet Spectacle et puis de cette prochaine édition donc du quatrième ouvrage du livre audio qui émane de cette association. C'est toujours dans le thème du patrimoine au sensible.
C'est toujours dans le thème du patrimoine au sensible, sur le paysage urbain principalement. Merci en tout cas.
Bonne soirée, au revoir.
Bonne soirée.